Interview.
2 jours.
Elisabeth Chabuel.
C'est de la fiction, c'est à partir de ce qu'elle m'a dit, c'est une façon de restituer ce qu'elle m'a dit, mais c'est aussi ma fiction parce que j'étais pas là. Et aussi dans un deuxième livre, je questionne cette idée là, qu'est-ce que c'est la fiction, puisque je raconte mais j'étais pas là, donc ce que je dis c'est pas non plus l'exacte réalité puisque j'y étais pas. Mais sauf que les personnes qui y étaient n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils ont vécu. Parce que parfois, quand les choses sont tellement difficiles à dire, que les mots, on n'a que le silence, en fait, pour s'exprimer. Et je pense que c'est la génération suivante qui peut tenter de trouver les mots. Mais après, il y a toujours ce décalage entre les mots et la chose, les mots et le vécu. Il y a un décalage, il y a un grand trou entre les deux, mais après, on le sait qu'il y a ce trou. Et donc, la personne qui écrit le sait, la personne qui lit aussi doit questionner ça aussi. Que la poésie, c'est ça, en fait. C'est dire des choses qui peuvent être très personnelles, mais qui ont en même temps une distance. C'est trouver la bonne distance, la poésie, pour dire les choses. Parfois des choses très crues.
D'ailleurs, vous avez eu cet héritage hein, de ces souvenirs, de ces histoires de la part de la famille. Pour vous, enfant, c'était peut-être une avalanche d'émotions ?
Non, pas du tout.
Non ?
Non. En fait, c'est une prise de conscience que j'ai eue adulte. Parce que... Enfant, non, je me rendais pas compte du côté tragique. Enfin, si, il y a des choses qui me faisaient peur et j'avais, mais consciemment, les bois, quand j'étais dans les bois, quand on jouait aux résistants, quand on jouait aux maquisards et tout, ça restait du jeu. Et le jeu, c'est une façon d'aborder les choses aussi. Non, la prise de conscience, elle m'est venue une fois adulte et elle m'est venue lors d'un événement particulier. Parce que, en fait, j'avais des amis au Kosovo parce que je traduis, j'apprends toujours parce qu'on ne sait jamais vraiment une langue. J'ai commencé à apprendre l'albanais et j'avais des amis au Kosovo quand il y a eu au printemps en 99 quand il y a eu en fait la guerre au Kosovo et j'étais avec ma mère en fait devant la télévision et on regardait les personnes qui fuyaient, qui partaient qui quittaient leur maison dans les campagnes et tout, dans les montagnes et ma mère elle m'a dit ah, dire que j'ai vécu ça et en fait c'est ce mot qu'elle a dit, cette petite phrase qui m'a renvoyée dans toutes ces histoires et qui m'a donné envie en fait de restituer ce qu'elle m'avait dit et de faire le lien entre ce qui avait été vécu par les gens d'ici dans le Vercors avec lequel j'ai un fort lien affectif et ce que vivent les gens à ce moment-là au Kosovo et maintenant en Ukraine, à Gaza, partout. En fait, les méthodes de la guerre sont les mêmes. Et les souffrances sont les mêmes. Donc, enfin, les mêmes. Je ne veux pas dire que ce qu'ont vécu les gens de Vassieux, c'est la même chose que ce que vivent aujourd'hui les personnes de Gaza, mais il y a des choses similaires. Et que tout ça aussi, je l'ai abordé parce que une fois, je discutais avec un auteur que j'ai traduit, dont j'ai traduit plusieurs livres. Et il me demandait si j'écrivais et je lui ai dit oui, j'écris des petits textes et j'écris souvent autour de la guerre. Et il m'avait dit, mais je comprends pas, pourquoi tu écris sur la guerre? Tu sais, il faut pas jouer avec la guerre. La guerre, c'est sérieux et les gens qui n'ont pas vécu la guerre, ils peuvent pas écrire sur la guerre. Et quand il m'avait dit ça, ça m'avait fait un choc. J'ai dit, bah oui, mais pourquoi je veux toujours être sur la guerre? Et en fait, cette conscience, elle m'est venue après. Que, en fait, cette guerre, je l'avais dans la peau à cause de ma mère. Mais sauf que on n'en parle jamais. Les gens de Vassieux, ils ne parlent pas. Ils ont... Enfin, c'est très difficile de leur demander de raconter.
Elisabeth Chabuel, très tôt, vous a pris l'envie d'écrire de la poésie?
Au collège, en fin de collège, en troisième, grâce à une prof, grâce à une prof qui nous faisait des ateliers d'écriture, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui allait m'apporter beaucoup. Et parce que moi, j'étais plutôt dans l'image. Je faisais de la peinture, je dessinais beaucoup. Et j'avais un peu des difficultés avec les mots, avec l'écriture et tout. Mais cette prof, elle avait retourné les choses.
Et est-ce que être poète, c'est en quelque sorte être un mathématicien de la langue, de la pensée?
Waouh!
Est-ce qu'il y a des formules à trouver pour justement capter au mieux le lecteur?
Non, moi je cherche pas à capter, je cherche pas du tout à capter, je cherche plutôt à partager. Je sais pas comment un mathématicien. Oui, j'aimerais bien être mathématicienne, mais je crois que j'ai pas. Ben, mon mari est féru de maths et tout, mais donc je vois ce que c'est. Mais non, pour moi, c'est... Non, il y a des poètes qui sont mathématiciens. Par exemple, Jacques Roubaud, si je ne me trompe pas, c'était un grand mathématicien. Moi, non, je ne fais pas jamais de calcul. Je suis plutôt un peu comme Marguerite Duras qui dit qu'on écrit, qu'il faut se mettre à écrire et ça écrit. Et du coup, ben, je fais comme ça, je prends beaucoup de notes. Et souvent, mes scénarios, je les fais après coup. Je reconstruis après coup. Surtout en théâtre, j'ai écrit quelques pièces de théâtre. Et du coup, il y a toujours une partie où je travaille en impro pour cerner mon sujet. Je fais des recherches. Et puis après, je me lance dans l'écriture en impro. Et après, je coupe beaucoup et je restructure après.
Pour vous, la poésie permet d'exprimer, vous disiez peindre, dessiner. Est-ce que ces techniques ont leurs limites au point de justement d'utiliser la poésie pour exprimer vos sentiments?
Moi, ce que j'aurais beaucoup aimé faire, c'est en fait quand j'aurais voulu être réalisatrice de cinéma, parce que en fait j'ai un rapport à l'image qui est très fort. Et mais sauf que j'ai pas eu les moyens de faire une école de cinéma. J'ai interrompu mes études, c'était compliqué. J'ai fait un peu d'études d'audiovisuel, puis c'était très compliqué. Et du coup, l'écriture, ça a vraiment été... Grâce à l'écriture, on peut tout, en fait. Parce que l'écriture, elle est avant tous les autres arts. Parce que je dirais presque qu'on peut peindre en écrivant. Parce que c'est tellement un médium qu'on peut manier comme on veut, qu'on peut tout faire.
La poésie, effectivement, c'est il n'y a pas une poésie, il y en a une multitude.
Oui, ben...
Et en même temps, il faut qu'elle puisse être comprise.
Alors ça dépend de ce qu'on entend par comprendre, parce que je pense que la poésie, elle ne se comprend pas qu'avec la tête. Je pense qu'on peut très bien comprendre, ressentir, mais même ressentir, c'est pas assez explicite pour moi. On peut, je sais pas, ça peut vraiment toucher la peau, Et alors que intellectuellement on comprend rien à ce que ça raconte, mais physiquement il y a quelque chose qui se passe. Je crois que c'est.
C'est de la sensibilité.
Hein. Oui.
Et d'ailleurs, pour écrire justement, vous vous mettez dans quelles conditions pour écrire vos ouvrages ? Est-ce que vous avez besoin de peut-être cette source qu'est le Vercors, Vassieux ou...
Ben oui, peut-être, mais malheureusement. J'ai toujours plein de contraintes qui m'empêchent d'écrire comme je voudrais. Parce qu'il y a, toujours des choses qui ne vont pas. Donc, ce que j'essaye, c'est que chaque matin, j'essaye de prendre des notes. Et puis après, mes notes, c'est comme un garde-manger. Bah, c'est Tchekhov qui dit ça, que lui, il avait des sortes de garde-manger dans lesquels il inscrivait des notes, des fois, qu'il entendait dans la rue. Ou ça, moi, je fais ça aussi. Quand j'entends des dialogues qui m'intéressent, qui me questionnent, je les note. Je les reprends plus tard parce que je n'ai pas non plus mon carnet tout le temps sur moi. Parfois, je note des trucs dans mon téléphone, des petites choses, des petites idées comme ça. Mais en fait, moi, je suis vraiment dans les mots. Comment dire ? Je suis sensible aux mots. Et parfois, c'est la difficulté que le mot aura à dire la réalité ou ce qui va faire que... Ça va faire émerger une sorte de d'idée qui va se développer après. C'est un peu comme comme une culture, la culture ou d'un microbe quoi qui va se développer. Et ce développement, on peut pas savoir à l'avance comment ça va, ce que ça va donner.
Quand vous écrivez, est-ce qu'on peut parler, par exemple? Non, on va rester dans la poésie, mais par rapport... là, je vois la légende de la belle Justine. C'est de la poésie. Ça concerne Dee, principalement.
Oui,
comment c'est nourri, cet ouvrage, et quel est le processus qui vous a amené à l'écrire?
Alors, la légende de c'est une légende dioise, en fait. Et en même temps, c'est une histoire... C'est une jeune fille donc, qui se jette du haut de la montagne. Et cette histoire, on la retrouve aussi dans les Balkans, où quand les pays étaient occupés, étaient envahis notamment par les Ottomans, parce que les Balkans, c'est les Ottomans qui ont les filles, plutôt que de se faire violenter, elles se jetaient des montagnes. Et là aussi, c'est un petit parallèle que j'ai fait entre la belle Justine, parce que la belle Justine, elle se jette de la montagne quand elle découvre qu'elle a un visage hideux. Parce que jusque-là, en fait, tout son entourage, son père notamment, lui a caché son visage parce qu'elle a en fait un groin de cochon en guise de visage. Plutôt qu'un visage de jeune fille, elle a un visage de porc. Et ça, apparemment, dans l'histoire, ça ne devrait rien avoir d'hideux, parce que, en fait, c'est quelque chose qui appelle à... C'est une sorte de divinité, en fait, cette Justine, en réalité. Parce qu'elle a un visage qui n'est pas humain, parce qu'elle est mi-femme, mi-déesse. Et donc, dans mon histoire, j'en fais une fille très intelligente qui... Et donc elle vit seule, elle est isolée parce qu'elle est laide. Et il y a notamment un souterrain qui la conduit au centre de Dee, où elle vient tous les dimanches. Et moi, c'est une sorte de conte un peu féministe que je fais là, de la belle Justine. Et je l'ai écrit comme une pièce de théâtre. C'est comme comme une sorte de conte, mais c'est très théâtral. Et au départ, ça a été monté en théâtre et ça a été intégré dans une pièce qui s'appelle Le Marchand de Souvenirs. Et le Marchand de Souvenirs, c'est un homme en fait, qui vend des histoires. Et dans les histoires qu'il vend, il y a notamment celle-là. Et sinon, il est le petit livre, il est publié, La légende de la belle Justine, c'est publié dans une petite maison d'édition que j'ai créée, qui s'appelle Les éditions imprévues.
Et la poésie, c'est, comme vous le dites, vous prenez des notes. Est-ce que c'est en quelque sorte aussi cuisiner un peu tous ces mots de manière à leur donner quelque chose d'appétissant peut-être pour le cœur?
Cuisiner. Cuisiner, c'est pas le mot que j'emploierais, mais wow. Non, c'est plutôt, c'est pas vraiment une cuisine. Pour employer, pour être dans ces images-là, c'est plutôt une sorte de fermentation, mais pas une fermentation positive. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose. On met un petit truc et puis ça gonfle, ça, et on ne sait pas au départ ce que ça va devenir. Mais c'est vrai que ça, je laisse beaucoup ma poésie faire comme elle l'entend, en fait. Et après, je reprends.
Ça vous prend du temps d'écrire un ouvrage poétique?
Enfin, mais ça dépend desquels. Mais par exemple,
ça peut prendre plusieurs années.
C'est surtout l'édition qui est très longue. Là, j'en ai un qui devrait sortir à l'automne. Alors là, je croise encore les doigts parce que c'est un livre pour lequel j'ai reçu une bourse d'écriture en 2019 qui devait être publiée par mon éditeur, donc l'éditeur de Le Veilleur, qui est un éditeur qui était dans la Drôme, à Grane, et maintenant ils sont à Saint-Étienne. Et donc en 2020, je lui ai soumis ce manuscrit. J'avais reçu une bourse pour l'écrire, donc j'ai tout fini. Je lui ai soumis en 2020. Et donc après ça, il y a eu les années de Covid, c'était un peu compliqué pour lui, donc il n'a pas pu le publier tout de suite. Et là, il devait le publier en décembre 2023. J'avais un contrat et tout, et puis là, ils ont beaucoup de difficultés et ils n'ont pas pu le publier. Et du coup, au printemps dernier, j'ai reçu un prix pour ce manuscrit, un prix de la ville de Clermont-Ferrand qui s'appelle le prix Amélie Murat. Et suite à ce prix, je lui ai demandé, mais alors, est-ce que vous allez le publier ou pas? Et ils m'ont dit, ben non, on ne peut pas, on est trop en difficulté, ce n'est pas possible. Et à partir de là, j'ai cherché un autre éditeur. Et voilà, en principe, j'ai trouvé. Donc, je vous dirai ça dans quelques mois, là.
Il y a aussi des partenariats. Hein. Je vois Emmanuel Mergaud, un peintre qui résidait à Die. Je ne sais pas s'il y est toujours. Mais
il vient encore faire des ateliers, non?
Oui, Diwa Expression, oui. Notamment. Comment s'élabore une collaboration avec un artiste sur un travail poétique?
Alors là, pour le cas, il m'a montré. Là, c'est moi qui l'ai convoqué, hein, parce que j'aime assez ce qu'il fait. J'aime ce côté assez flou, assez. Et puis l'idée des lignes de fuite. Et moi, le sujet que je voulais aborder, c'était en fait la ville. La ville et ce livre, j'ai écrit. Dans les trams grenoblois, dans le métro de Berlin et un peu de Paris, mais c'est surtout Grenoble et Berlin. Et en fait, je me suis servi des images d'Emmanuel Mergaud pour parler, en fait, de un peu quand on est dans un train où on voit défiler les paysages. Et ça m'a rappelé beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, il y a ces images sur des textes qui parlent des passagers. En fait, ça s'appelle Les Passagers. Et c'est aussi quelque chose sur l'histoire aussi, le carambolage de l'histoire sur le passé et le futur qui parfois se rencontrent.
Ces romans, enfin pas ces romans, ces textes de poésie, sont édités sur diverses maisons d'édition. Vous parliez de cette difficulté de l'une pour vous éditer. Oui. Est-ce que vous constatez aussi cette difficulté qu'ont les éditeurs à l'heure actuelle pour pouvoir justement travailler sereinement? On en parlait avec la librairie tout à l'heure sur le monopole qu'exerce Bolloré sur le marché.
Oui, complètement, oui. Ça, c'est pour la poésie, c'est d'autant plus difficile parce que c'est très peu édité, la poésie. Et les éditeurs, c'est des petites maisons indépendantes. Et ils s'en créent beaucoup et ils s'en perdent. Ils s'en perdent beaucoup. Beaucoup mettent la clé sous la porte parce qu'ils ont du mal à diffuser. Mais c'est aussi une petite niche, la poésie. Les tirages sont tout petits. Hein. Mais justement, Créafis, il avait fait un gros tirage sur mon livre. 800 exemplaires, c'est énorme pour de la poésie. Et c'est diffusé. Le Veilleur, il est diffusé partout. Au Canada, au Québec, en Suisse, alors que souvent les éditeurs, les petits éditeurs de poésie, ils restent au niveau de l'Hexagone.
Moi, je voulais juste vous demander, Elisabeth, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, dans ce contexte? Qu'est-ce qui vous a fait venir?
Alors,
l'interview à Radio Diwa.
Alors, moi, je suis venue. Déjà, j'ai vu une petite affiche devant le supermarché où je vais, Auchan, à Grenoble. Et il y avait des manifestations à Grenoble et à Vassieux. Et je me dis, Vassieux, tiens, parce que bon, il y a mon lien avec Vassieux. Et puis, j'ai pas eu beaucoup d'infos, mais j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce titre, Maquistan, parce que ça renvoie au maquis, tout ce que. Et puis, on était à 10 week-ends et je voulais absolument venir voir parce que le sujet de la migration, c'est au cœur de ma création. Hein. Tous mes livres abordent ce sujet et notamment le prochain, celui qui va sortir, là, Je suis le mur. C'est sur ce sujet-là. Donc, j'avais entendu dire qu'il y aurait des débats sur la migration et je voulais absolument venir.
Le fait de vous intéresser aussi à la littérature albanaise, oui. Est-ce que pour vous, il y a un écho de ce que vous connaissez vous-même dans vos écrits, dans vos souvenirs
Sur les sujets
Sur les sujets que vous traduisez, qu'est-ce qui vous amène à traduire certains textes notamment?
Alors, ce que j'ai traduit, ça tourne beaucoup sur le totalitarisme. Donc ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Et là aussi, il y a eu une petite coïncidence avec ce qu'a dit. On avait le festival Est-Ouest. Moi, je suis allée en Albanie la première fois. J'étais étudiante. Et j'ai rencontré un jeune auteur qui n'était pas encore vraiment auteur, quoi. Il écrivait de la poésie et il m'avait traduit parce qu'il parlait bien français. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout la langue albanaise. Et il m'avait traduit quelques vers en français. Et puis, il s'est trouvé après que cet auteur, après la chute de la dictature, il est devenu ambassadeur à Paris. Et avec Ton Vink, qui à l'époque était le directeur résident, je sais pas quoi, enfin celui qui a créé et qui s'occupait du festival, on avait rendez-vous tous les deux à l'ambassade. J'ai revu donc ce Besnik que j'avais connu, on avait 20 ans, 21 ans, parce qu'il a le même âge que moi, et c'était vraiment un plaisir de le revoir. Et à l'époque, à l'époque, après la chute du mur, toutes les sociétés s'ouvraient et c'était complètement le contraire de maintenant, où en fait, il y avait tous les possibles étaient ouverts. Et c'était là en discutant qu'il me dit mais euh, il faut euh, ce que j'avais fait aussi, j'avais adapté quelques poèmes d'un autre poète albanais. Et quand cet auteur-là a vu ce que j'avais fait, il me dit « Mais il faut que tu deviennes notre traductrice, il faut... » Et du coup, j'ai fait des essais. Puis après, petit à petit, en fait, une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, je pouvais plus. Il m'a envoyé les bouquins, tous les méthodes, les dictionnaires. Et du coup, j'ai commencé en autodidacte. Hein, j'ai appris comme ça. Et puis, grâce au festival, en fait, ces auteurs, ils sont venus à Adi. Et ce qui était vraiment fabuleux, c'est que Adi, tous les possibles étaient ouverts, effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait l'ambassadeur d'Albanie qui était assis au milieu des gens. Il y avait le grand auteur Ismaël Kadaré, qui est mort aujourd'hui, ouais, qui était là. Bon, lui, il était un peu plus. Disons qu'il était un peu plus. Il se mêlait plus difficilement à la population parce qu'il était très. Lui, c'était vraiment une vedette, quoi. Mais bon, on est quand même. On avait mangé au resto avec lui. J'ai eu l'occasion de traduire des petits textes de lui aussi, qui n'ont pas été publiés. En fait, j'ai traduit un texte et en fait, mon texte traduit, il a été publié avec le nom de quelqu'un d'autre comme traducteur. Mais bon, il y a plein de magouilles comme ça. Mais bon, je sais plus qu'est-ce que c'était ta question.
Tu l'as appelé.
Oui, ouais. Oui. Et donc, avec le festival Est-Ouest, c'était quand même le sujet, c'était travailler sur le totalitarisme, quoi. Et après, moi, j'ai bouquiné beaucoup autour du totalitarisme. Les livres de Hannah Arendt, et puis beaucoup d'auteurs russes, les auteurs albanais, bien sûr. Et puis l'auteur que j'ai traduit, ce que je trouve fou, c'est que en fait tout ce bagage que j'ai derrière moi aujourd'hui, c'est vraiment très très utile parce que en fait tout ce que on a voulu, tout ce à quoi on a voulu échapper, et ben là on y fonce dedans vraiment tête baissée, sans rien voir, sans aucun doute sur rien, et ça m'attriste beaucoup. Et même là, en ce moment, je traduis pas parce que déjà, j'ai un livre que j'ai traduit en 2020 qui n'a pas trouvé d'éditeur. Du coup, je suis un peu. C'était un gros, gros travail qui m'a été demandé par l'auteur. Et je l'ai fait en espérant trouver un éditeur. Puis en fait, ça n'a pas été possible. Et là, il me relance toujours pour que je fasse des démarches pour trouver. Mais la situation, comme vous disiez, elle a beaucoup changé. C'est très compliqué maintenant pour faire publier des livres sur ce sujet. Sur le sujet... voilà.
Vous parliez tout à l'heure de cette liberté de parole qui a surgi au sortir de ces dictatures. On peut se rappeler aussi de la glasnost en Union soviétique où c'était hallucinant. Moi, je me rappelle de ces reportages de la télévision soviétique qui donnaient la parole au public dans la rue et qui exprimaient ce qu'on n'entendait même pas en France chez nous. Je pense qu'ils ont fait une machine arrière toute depuis 25 ans. Est-ce que nous aussi, on est en train de suivre ce processus en France ?
Comment dire ? Moi, ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que on perd de notre lucidité, que on n'est pas assez critique sur ce qui nous attend, on n'est pas. On se laisse un peu vivre dans nos. On s'occupe de nos petites difficultés quotidiennes qui ne sont pas non plus négligeables, mais sauf qu'il faudrait qu'on ait un regard plus général pour voir que nos difficultés personnelles, ce n'est pas que les nôtres, c'est un ensemble et qu'il faudrait refuser certaines choses qui peuvent être. Il y a des choses qui seront, on ne pourra plus faire marche arrière. Et il faudrait être plus vigilant, quoi. C'est ça surtout que...
Et puis c'est peut-être consécutif aussi à une sorte de perte de la mémoire. On parle de nos futures générations. Quand on voit les programmes d'histoire dans les établissements scolaires où certains domaines de l'histoire sont effacés.
Je ne suis pas trop au courant de ce qui a été effacé et pas effacé.
Par exemple, le colonialisme, il y a eu de sacrés coups de gomme dans les programmes de cours d'histoire dans les établissements scolaires. Mmh. Donc, est-ce que c'est aussi... cette perte de conscience, puisque elle n'est pas mémorisée dans...
Ben, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas... Parce que moi, j'ai intervenu dans plusieurs collèges sur le thème de l'histoire, de la mémoire. Et dans la plupart des collèges où j'ai intervenu, il y a plus de 60% d'enfants qui sont issus de migration. Donc il y a des jeunes, des enfants dont les parents sont migrants, et puis il y a beaucoup de jeunes issus du Maghreb, et du coup la colonisation, ils savent ce que c'est, et c'est un sujet très très chaud, et justement ils posent beaucoup de questions. Le problème, c'est que l'école, en fait, elle met plus le paquet dans l'éducation, et tout c'est du coup ça peut créer des rancœurs, ça peut... Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est que l'école, elle soit... Il y ait vraiment des moyens soient mis dans l'éducation, parce qu'on a besoin que les enfants, ils soient éveillés, ils soient lucides, notamment sur les sujets aussi d'écologie. Les enfants, ils sont vraiment sensibles à ça. Ils attendent que...
Mais justement, je reviens un peu sur ce que procède Trump, c'est-à-dire d'effacer des faits d'histoire qui sont liés justement pour eux au wokisme ou à des minorités. Est-ce que... Moi, je le perçois comme ça. Il me semble que Jean-Michel Blanquer, dans ses programmes, a tenté de réformer aussi l'histoire dans les manuels d'histoire des établissements scolaires. Oui. Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi une résistance du corps enseignant qui a permis quand même de maintenir cette notion du colonialisme?
Je pense que le corps enseignant, il est à bout de souffle. Ils sont extrêmement fatigués, ils ont beaucoup de charges. Et... Moi, je trouve que c'est triste que l'éducation, les collèges surtout, il n'y ait pas plus de moyens donnés, quoi, et plus de... Parce que quand les quelques ateliers que j'ai faits, mais à chaque fois, c'est comme une bouffée d'oxygène. Les enfants, je leur lis de la poésie, je fais des petits ateliers où ils écrivent de la poésie. Et chaque fois, je pense que c'est un instant qui va les marquer pour la vie. Ils adorent.
Et pour vous aussi, ça vous oxygène?
Alors, ça dépend des lieux.
Non, je parle des enfants.
Ah oui, moi j'aime beaucoup, oui. Ah oui, ça donne de l'énergie, plus de l'oxygène. Parce que, je sais pas, j'anime aussi des ateliers avec des adultes et... C'est vrai que quelquefois, avec certains adultes, il faut tirer beaucoup, alors qu'avec les enfants, ça part en flèche là, et c'est un peu le contraire. Il faut bien organiser, bien s'organiser, mais c'est très riche. Mais bien sûr, il faut aussi que l'enseignant il soit partant, et parce qu'on peut rien faire sans l'enseignant ou l'enseignante. Et si l'enseignant, enseignante, s'ils sont bienveillants, c'est magique ce qui se passe.
Elisabeth Chabuel, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour parler de vous. Comment est-ce que vous êtes visible sur Internet?
J'ai pas de site. Mais j'ai une page Wikipédia qui n'est pas très à jour. je ne suis pas très visible, mais bon, vous pouvez quand même me trouver parce que il y a le site de mes éditeurs, il y a Enfin, j'envisage depuis longtemps d'ouvrir un site, mais en fait, je ne sais pas pourquoi ça décolle pas.
Pour vous, c'est un outil. Le numérique, c'est un outil dont vous n'avez pas forcément une pleine confiance.
Non, c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est très chronophage. Et par exemple, j'avais prévu de faire des choses avec Instagram, mais en fait, c'est tellement chronophage que j'y arrive pas. Après, entre écrire, entre répondre aux contraintes familiales, enfin toutes les contraintes de la vie, et puis se donner le temps de créer, d'écrire, j'ai pas énormément de temps à passer sur Facebook et Instagram. Mais j'ai quand même un projet de créer un site personnel pour qu'on puisse me suivre, puis mettre des inédits ou des petites anecdotes, je sais pas trop. J'ai commencé plusieurs fois, mais je l'ai jamais mis en ligne.
Eh bien, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Yvonne, sweetest.